Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur l'émission Plus de vie. Je vous propose de commencer ces moments en priant. Merci Seigneur Père encore pour ta présence dans notre vie, pour ta présence dans chaque instant, les bons comme dans les mauvais Seigneur. Merci encore pour ces moments particuliers qu'on passe à l'écoute de ta parole Seigneur, à l'écoute des choses qui te concernent. Tu nous aides encore une fois à comprendre les choses que tu veux nous dire au travers d'elles et puis ce que tu as déposé aussi dans mon cœur, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. On va lire maintenant donc dans Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Amen. On découvre ici que Jacob, qui est l'héritier des promesses qui ont été faites par Dieu à Abraham et à Isaac, la grande promesse d'une postérité qui dépassera juste la dizaine, la vingtaine de personnes et puis une époque très courte, mais qui va englober toute l'histoire de l'humanité et le peuple juif dont on parle actuellement et tous les chrétiens aussi, puisque nous sommes descendants d'Abraham dans la foi, eh bien Jacob, lui, ne connaissait pas encore beaucoup Dieu. Il avait entendu parler de lui, mais il n'avait pas encore beaucoup d'expérience avec lui. Et d'ailleurs, Dieu a besoin de façonner son caractère pour qu'il devienne qui Dieu veut qu'il soit. Et Jacob va un moment se retrouver à Beersheba et il s'endort. Et pendant qu'il dort, il fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit une échelle. On l'a lu, hein, une échelle qui est appuyée sur la terre et qui touche au ciel. Donc c'est vraiment un rêve. Et il voit des anges qui montent et qui descendent par cette échelle. Et c'est quelque chose d'important aussi qu'on puisse se souvenir, que Dieu a des esprits qu'on appelle des anges qui sont à son service en faveur de ceux qui doivent hériter du royaume des cieux. C'est dans Hébreux chapitre 1 et au verset 14 qu'on découvre cette parole de l'auteur de l'épître aux Hébreux qui dit que les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu exerçant un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du royaume des cieux, c'est-à-dire nous qui sommes chrétiens, qui avons donné notre cœur au Seigneur Jésus et qui croyons que nous allons aller au ciel. Les anges travaillent et œuvrent sur la terre au service de Dieu en faveur de nous, en faveur des enfants de Dieu, des créatures qui se confient en lui. Et donc, Job a cette révélation de ce monde spirituel qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'on peut voir avec la parole de Dieu et avec notre foi. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des visions d'anges, mais simplement de croire que cette réalité existe vraiment et que c'est des choses qui sont là et qui se passent. Jacob découvre ça et il voit quelqu'un de particulier en haut de l'échelle, c'est Dieu qui s'adresse à lui et qui lui répète les promesses qu'il avait faites à Abraham, son père, à Isaac. Et donc il est vraiment là face à Dieu et Dieu lui parle. Il se réveille de son rêve. Et il va dire cette phrase sur laquelle on va s'attarder encore aujourd'hui. « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » C'est ça que je voudrais partager avec vous, c'est cette pensée que Dieu peut être là et qu'on ne le sait pas. Dieu veut se manifester à notre vie, veut qu'on soit conscient de sa présence. Dieu le Père, Dieu le Fils, par l'Esprit bien sûr, mais Dieu est là. Dieu ne veut pas être loin des hommes. Dieu veut être près des hommes et il faut en être conscient. Jacob ne l'avait pas compris Alors il va appeler cet endroit comme si c'était la maison de Dieu d'ailleurs, hein. Il va vraiment marquer l'endroit, il va monter la pierre, etc., sur laquelle il était couché pour pouvoir en faire un autel. Mais plus qu'un endroit en particulier, la Bible aussi, tout le reste de l'enseignement biblique nous montre que Dieu peut se manifester n'importe où. Il est partout, mais partout on n'en est pas conscient. Dieu est là, et il ne le savait pas. Et qu'on soit dans un lieu de culte, une église, que l'on soit à la maison, que l'on soit en train de prier, on peut faire cette démarche dans notre cœur de prendre conscience que Dieu est là à nos côtés. On vient de faire quelque chose d'important, on a ouvert la Bible, on l'a lu. Est-ce qu'on réalise que Dieu est là et qu'il veut nous parler, qu'il veut nous communiquer des grâces, qu'il veut nous écouter aussi, lui parler, l'adorer, le remercier, le prier, lui demander des choses? Dieu est là. La Bible nous révèle un Dieu qui n'est pas lointain, mais qui est près des hommes et qui veut une relation avec les hommes. Depuis Adam dans la Genèse jusqu'à Jean dans l'Apocalypse, tout nous montre que Dieu est un Dieu qui veut une relation avec les hommes qui sont prêts à l'écouter, à lui parler, à vivre avec lui. Et on va s'attarder sur quatre choses qui vont nous montrer ce qui se passe quand on réalise que Dieu est là. La première de ces choses, c'est que lorsqu'on réalise que Dieu est là, notre souillure nous saute aux yeux. Dans Ésaïe chapitre 6 et verset 1, il est dit: L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ce premier texte que j'ai pris nous montre vraiment que quand Dieu est là, quand la présence de Dieu, la sainteté de Dieu nous est révélée, notre souillure nous saute aux yeux. On comprend qu'on est des pécheurs qui méritent la condamnation, qui méritent l'enfer. Petit ou grand péché, la Bible déclare que le pécheur mérite l'enfer. Il ne peut entrer dans le ciel car dans le ciel, rien de souillé ne peut y pénétrer, ne peut y rentrer. C'est un lieu tellement saint et tellement pur, le ciel, que rien qui a été souillé par le péché, aucun cœur qui a été atteint, touché par le péché, aussi petit soit-il, ne peut rentrer dans le ciel. Et Ésaïe, lorsqu'il a cette révélation de ce Dieu trois fois saint, il tombe par terre, il a peur, il dit: Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme, et il va dire quelque chose d'étonnant, dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Il est conscient que personne ne peut voir Dieu et vivre lorsqu'il est pécheur, et la Bible déclare que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pas le fait qu'il ait menti, c'est pas le fait qu'il ait tapé quelqu'un ou qu'il ait agi avec ses mains d'une mauvaise manière, c'est ses lèvres qui vont vraiment lui sauter aux yeux, ses lèvres qui sont impures. Il réalise que son langage, sa manière de parler, les bêtises qu'il a dites, les choses sales peut-être, les gros mots, les choses comme ça qu'il a dites, ont souillé ses lèvres et du coup, il ne peut vivre devant le roi, il croit qu'il va mourir. Et voilà qu'un ange vient et il a une pierre ardente qu'il a prise sur l'autel. Vous savez, cet autel où on sacrifiait, où il y avait ce sacrifice qui était fait et qui était le signe de Jésus qui allait mourir sur la croix pour nos péchés, et où le feu était là et brûlait l'offrande qui était faite à Dieu, le sacrifice qui était fait à Dieu. Et voilà que cette pierre est mise sur les lèvres d'Ésaïe, et l'ange va lui dire: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Bonne nouvelle. Oui, la souillure nous saute aux yeux, notre souillure nous saute aux yeux quand on se retrouve conscient de la présence de Dieu face à Dieu. Mais d'un autre côté, on réalise aussi qu'il y a eu un sacrifice pour le pardon de nos péchés à la croix. Quelle bonne nouvelle. Ça, c'est le premier effet de ce qui se passe quand on est conscient que Dieu est là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, le premier jour où j'ai compris que j'étais pécheur, c'était un jour où on prêchait l'évangile et on parlait de la sainteté de Dieu. Et ça m'a sauté aux yeux. Et chaque fois aujourd'hui où je me tiens dans la présence de Dieu, c'est vrai que si j'ai fait quelque chose de mal, si j'ai un péché encore que j'ai commis et dont je me souviens, eh bien, ça me saute aux yeux et j'ai besoin de me rappeler vraiment. Et je me rappelle que Jésus a payé pour mes fautes et que je peux me tenir dans la présence de Dieu pour lui prier, pour l'adorer, pour l'écouter sans avoir honte parce que tout est pardonné, tout est expié. La deuxième chose qui se passe quand la présence de Dieu nous est révélée, c'est qu'un saint respect nous saisit. Dans Exode 3, verset 1, il est parlé de Moïse, vous savez, qui se retrouve devant ce buisson qui brûle, mais qui ne se consume point. Il est dit que Moïse se cacha le visage et s'approcha pour parler avec Dieu, tellement il a un respect pour Dieu. Dans 1 Roi 19, verset 11 à 14, pareil, on voit Élie qui fuit devant la menace, qui se réfugie dans la montagne, et à un moment, Dieu l'appelle. Il lui dit « Ésaïe, que fais-tu ici ?» Et il l'invite à sortir de sa grotte. Élie va sortir, et il est écrit ceci « Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. » C'est une attitude qui nous montre que ces deux hommes qui connaissaient Dieu, lorsqu'ils se retrouvent dans la présence de Dieu, ils ont comme une attitude de cacher leur visage, non pas parce qu'ils sont moches ou ils ne sont pas beaux, mais ils se cachent comme signe de « je ne mérite pas, tu es saint et je ne mérite rien devant toi et j'ai un saint respect pour toi. J'ai une attitude respectueuse, j'ai une attitude de soumission, j'ai une attitude révérente. » Dans Genèse 28, verset 17, et là je vais le lire, on voit la suite de ce qui s'est passé avec Jacob. La suite de notre lecture, verset 17, « Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luth. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. » On voit vraiment Jacob avec cette attitude révérente. On voit qu'il est, contrit dans son cœur. Il n'a pas commis un péché, là, il ne parle pas de péché. Simplement, le fait de savoir que c'est là un endroit où Dieu est présent, eh bien, ça lui impose un saint respect. Il va prendre la pierre sur laquelle il dormait, il la lève, il met de l'huile dessus, symbole de consécration, et il va donner un nouveau lieu, un nouveau nom à ce lieu, le nom de Bethel, et qui parle de maison, qui veut dire la maison de Dieu, Bethel, la maison de Dieu. Et vraiment, il consacre ce lieu. Il y a un saint respect dans son cœur et dans sa vie. Est-ce que nous aussi, on est prêt à réaliser que Dieu est partout, Dieu est avec nous, Jésus a promis de nous accompagner tous les jours de notre vie si nous continuons à avoir la foi en lui? Est-ce qu'on réalise qu'il est là du coup et qu'il mérite un saint respect? On ne peut pas raconter n'importe quoi devant Dieu. On ne peut pas non plus se comporter de n'importe quelle manière, à la légère. Dieu est saint, Dieu est grand, Dieu est notre créateur. Et c'est à nous de lui vouer allégeance, à lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La troisième chose que je note quand nous sommes conscients de la présence de Dieu, c'est que sa personne nous captive. Nous sommes captivés par la personne de Dieu, par la personne de Christ, par la personne du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 17 et verset 1, il est écrit « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Vraiment, ce texte me passionne aussi. Et on voit vraiment que Pierre et Jean et Jacques ont eu un privilège incroyable. Alors que Jésus, le Christ, le Seigneur, et qui était encore un homme, qui était encore avec cette forme d'homme, en tout cas, se présente à eux et se révèle à eux sous une forme glorieuse. Son visage est transfiguré. Il a vraiment quelque chose d'incroyable qui se manifeste. Pierre, Jacques et Jean vont voir Jésus avec un visage comme le soleil qui resplendit, des vêtements qui deviennent blancs comme la lumière. On les voit vraiment émerveillés au point que Pierre va dire « Mais Seigneur, si tu veux, on vous fait des tentes pour toi, pour Moïse, pour Élie. Et il est bon qu'on soit là. » Ils sont privilégiés de cette vision, de cette révélation de qui est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Il est glorieux, brillant, puissant. Il y a une nouvelle révélation qui leur est faite et ils sont comme captivés par qui est Jésus. Et quand Dieu se révèle à nous comme étant ce Dieu merveilleux, brillant, puissant, glorieux, il nous captive. Je ne sais pas vous, mais je passe ma vie à lire la Bible. Je passe mon temps à le servir. J'aime le prier, j'aime l'adorer. J'aime aussi la détente, je vous avoue. Mais j'aime tellement me plonger dans les Écritures pour découvrir qui est Christ, Dieu Fils, qui est le Père, Dieu le Père, oui, qui est le Saint-Esprit. Et je me passionne pour la personne de Dieu. Et vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Pierre, Jacques et Jean étaient prêts à dormir par terre. Ils disaient juste, on va vous faire des tentes, mais il est bon qu'on soit là. Et cette voix qui arrive, la voix du Père qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quelle grâce! Et à chaque fois que la présence de Dieu nous est révélée, on est captivé par lui. Moi, j'aime découvrir les textes qui me montrent que Jésus est Dieu. Quand il est écrit dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Et Jésus qui va dire « Je suis le bon berger, Jésus est Dieu ». Dans Jean chapitre 1 et verset 1, il est dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu ». Jésus est la parole faite chair et ça nous est confirmé au verset 14 de ce premier chapitre de l'évangile de Jean. Ailleurs encore, Jésus va dire « Avant qu'Abraham fût, je suis », au point que même les religieux vont le lapider, chercher à le lapider parce qu'ils disent qu'il se fait Dieu. À un autre moment, Thomas qui se met à genoux et qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». À un autre moment dans Ésaïe, quand on voit Ésaïe qui rapporte les paroles de Dieu, qui dit « Je suis le commencement et la fin, or moi il n'y a point de Dieu ». Et dans l'Apocalypse, Jean qui va décrire les paroles de Jésus qui se tient devant lui, glorieux avec la même vision, le visage rayonnant, tout cela, et qui déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». C'est Jésus qui parle. Et dans Ésaïe, celui qui est le commencement et la fin, c'est Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui. Jésus est Dieu et j'aimerais vraiment qu'on puisse profiter de ce que je suis en train de dire. Il y a des choses passionnantes, captivantes qui nous parlent et nous révèlent Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la Bible. Et il est bon de comprendre que Dieu est là. Et si on comprend que Dieu est là, on va être captivé par qui il est. Il va se révéler à nous un peu comme Marie, vous savez, Marthe et Marie. Marthe qui était occupée aux affaires qu'elle avait à accomplir et Marie qui avait choisi la bonne part qui ne lui sera point ôté. On est captivé par qui il est lorsqu'on comprend qu'il est là. Et puis la quatrième et dernière chose que je relève, c'est que quand on comprend que Dieu est là, il y a une assurance qui nous envahit. Dans Actes chapitre 4, verset 23, il est écrit « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. » Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant tes mains, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je crois de tout mon cœur qu'il y a une assurance pour ceux qui se confient en Dieu. Et ses disciples sont là. On le voit dans ce texte, ils ont été menacés. Juste avant, si on lisait le chapitre, on voit qu'ils étaient menacés par le Sanhédrin de ne plus parler le nom de Jésus, de ne plus prêcher son nom, sous menace d'être mis en prison et même d'être tués. Et les disciples, ils sortent et qu'est-ce qu'ils disent ? Seigneur, voilà la menace, mais donne-nous d'annoncer avec assurance ta parole. Confirme ta parole par des signes, des prodiges, des miracles. Seigneur, donne-nous de ne pas avoir peur. Et au moment où ils prient, la présence de Dieu se manifeste. Ils sont remplis du Saint-Esprit et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Quelle grâce, Actes 4, 23. C'est un beau texte qui nous montre que peu importe la menace, quand on sait que Dieu est là avec nous, on a de l'assurance. Un dernier texte de Rouen, chapitre 6, verset 15. Il est dit « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. » Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ce texte, encore une fois, est passionnant parce qu'on voit que des ennemis viennent pour arrêter le prophète Élisée. Parce qu'il dérange, parce qu'il parle des choses de Dieu. Et voilà qu'une armée envoyée par le roi ennemi s'approche d'Élisée. Le serviteur, le matin, il ouvre les volets et il voit cette armée-là. Il a peur et il dit à Élisée, « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'en sortir ?» Et Élisée, il va prier, « Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Et d'un coup, le serviteur va avoir les yeux ouverts par Dieu et il va voir que oui, il y a une armée ennemie. Mais il y a une armée bien plus grande, celle des anges de Dieu qui sont près d'eux pour les protéger. Alors ces anges, cette armée de chars et de chevaux de feu autour d'Élisée n'est pas là pour détruire les hommes parce que Dieu ne veut pas détruire les hommes. Ils sont là pour protéger. Et de la même manière, nous aussi si nous nous confions en Dieu, en Christ, et que nous croyons à sa parole, eh bien nous avons l'assurance que Dieu dépêche des anges pour nous protéger. La parole de Dieu en parle. Et ces anges ne sont pas là pour détruire les autres et nos ennemis, mais simplement pour nous rassurer. Et c'est bon de prendre conscience. Alors on ne les voit pas, nous, avec nos yeux, mais on peut croire que Dieu veille sur nous et qu'il a toute une armée d'anges pour protéger ceux qu'il aime et ceux qui se confient en lui. On a une assurance quand on réalise que Dieu est avec nous, que Dieu est là, présent, dans notre vie. On a une assurance parce qu'on sait que Dieu est un Père merveilleux qui nous aime et qui va prendre soin de nous. Alors en conclusion, plus que d'être dans une église, de se manifester dans un endroit particulier ou de croire que Dieu est dans un local, dans un temple ou dans une église, j'aimerais qu'on puisse réaliser tous que Dieu est partout avec nous. Et j'en prends un témoin, le psaume chapitre 139. Psaume 139, verset 1er. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Amen. Ce texte me montre que Dieu sait tout. Il connaît toute ma vie, rien n'est caché avant même qu'elle existe. Et aussi que Dieu est partout, je ne peux pas fuir Dieu. La seule chose que j'ai à faire, c'est de prendre conscience qu'il est là près de moi. Et quand j'en prends conscience, ma souillure me saute aux yeux et Dieu me montre qu'il m'aime parce qu'il a envoyé son Fils pour me pardonner mes péchés. Un saint respect m'envahit parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Sa personne me captive parce que Dieu est infiniment plus grand que ce que je peux imaginer. Et une assurance m'envahit parce que je sais qu'il m'est favorable au travers de l'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse et croyez que Dieu est là, près de vous. À bientôt.